Pas de fièvre typhoïde, la température augmente, mais le pouls a tendance à rester normal. Ça, ce sont des éléments cliniques qui mettent le clinicien en alerte. Le clinicien va procéder à faire des examens de laboratoire. Il y a des examens de confirmation et des examens d'orientation. Pour confirmer la fièvre typhoïde, on doit faire ce qu'on appelle la culture de sang, hémoculture. C'est le premier examen. On peut aussi faire la coproculture, c'est la culture est au niveau des selles. Pas seulement ça, on peut faire l'uroculture, la culture au niveau des urines. On peut faire aussi la biliculture. C'est principalement ces éléments-là qui aident les cliniciens à poser les diagnostics précis confirmant la fièvre typhoïde. Mais en dehors de ces éléments-là, de ces critiques, il y a des éléments, ce qu'on appelle les diagnostics d'orientation. Ça, par exemple, on va faire l'iridal qui peut vous orienter vers la fièvre typhoïde. On peut faire la numération des globules blancs ou l'hémogramme, principalement. Ça peut aussi vous orienter. Mais principalement, pour confirmer ça, on doit faire l'hémoculture, on doit faire la copoculture, on peut faire la biliculture ou encore l'uroculture.
Christian Dérabé veut savoir si le régime alimentaire ou bien l'eau peuvent aussi provoquer la fièvre typhoïde.
La fièvre typhoïde, c'est une maladie, ce qu'on appelle maladie de Messal. C'est une maladie dont la source de contamination, c'est la source humaine. C'est à partir des maladies ou des portées chroniques qui sont des hommes. La principale voie de contamination, c'est la voie digestive. C'est-à-dire qu'on prend les germes en les mains et on va les introduire dans les tubes digestifs. Les modes de contamination peuvent être directs, donc de l'homme à l'homme, à partir des mains qui sont souillées ou de l'eau qui est contaminée, et en manipulant des éléments ou des aliments qui sont contaminés, avec des mains sales, on peut se faire contaminer. Mais aussi une contamination indirecte. Et la contamination indirecte, c'est fait par des billets des mouches, des cancrelats et d'autres bestioles qui peuvent entrer en contact avec les matières fécales de l'homme et avec les mains sales en ingurgitant la nourriture, par exemple, on peut attraper facilement la fièvre typhoïde. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs favorisants.
Vous parlez des facteurs favorisants. Quels sont ces facteurs qui peuvent facilement favoriser la fièvre typhoïde?
Deux groupes de facteurs principalement. Le premier groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle l'hygiène individuelle et publique qui est déficiente. Ça consiste à quoi? C'est par exemple ne pas se laver les mains avant les repas ou après avoir été aux toilettes. C'est s'exposer par exemple ou bien exposer des aliments qu'on doit manger à l'air libre, à la portée des mouches, des bestioles ou encore des cancrelats. C'est avoir des fosses septiques bouchées ou mal entretenues. Mais aussi, c'est le manque d'eau de qualité qu'on consomme qui peut favoriser l'hygiène déficiente. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, ce sont des régions où il y a des grandes concentrations des hommes. Là, nous pouvons citer des internats, des casernes, des prisons, des structures où il y a une promiscuité. Donc, c'est principalement ces deux groupes de facteurs favorisants qui peuvent nous amener à faire la fièvre typhoïde.
Kevin Kaninda, depuis Lubumbashi, il dit qu'il a quelqu'un de proche, un de ses proches qui souffre de la fièvre typhoïde. Il s'inquiète s'il peut être contaminé. Donc, si cette maladie peut venir d'une personne vers une autre.
Oui, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que ce sont des maladies transmissibles. Transmissibles ou ce sont des maladies des liens sales. Quelqu'un qui est contaminé, qui a les germes ou bien qui porte les germes en lui, il peut aller faire ses selles facilement et ne nettoie pas très bien les mains après s'être essuyé et il quitte les toilettes, il ne se lave pas les mains, il vient vous saluer directement. À partir de vos mains, de cette salutation, vous pouvez vous faire attraper par la fièvre typhoïde.
Ok, je crois qu'il a compris, c'est bien clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à souffrir de cette maladie?
Il n'y a pas de personne disposée à faire la maladie, sauf seulement qu'il y a des régions qui ont une hygiène défectueuse et dans ces régions-là, on trouve un peu plus beaucoup de cas de fièvre typhoïde qui sont liés à l'hygiène. Mais il n'y a pas un âge ou des personnes ou les sexes qui ont une prépondérance à faire la fièvre typhoïde dans notre région. Il n'y a pas de genre, l'âge pour dire non. Seulement, ceux qui sont exposés par rapport à leur hygiène qui n'est pas une hygiène adéquate, ces personnes-là sont susceptibles de faire la fièvre typhoïde.
Jean Okongo Osumaka qui se demande si la fièvre typhoïde stéroïdes peut aussi attaquer les enfants de moins de 5 ans, les bébés que la maman est en train d'allaiter par exemple.
La thyroïde attaque tout le monde. Vous savez que les enfants de moins de 5 ans sont des personnes de nature vulnérable. Et quand une maman n'a pas une bonne hygiène, la maman peut contaminer son enfant. Vous savez que les enfants sont des personnes qui ont une immunité faible. Naturellement, une maman qui est infectée et qui ne sait pas très bien se soigner peut transmettre les germes entre temps. Elle a des germes entre ses mains, elle va manipuler ses seins et en donnant les seins à l'enfant, l'enfant peut se faire contaminer.
Est-ce que vous avez beaucoup de personnes dans votre hôpital qui viennent vous consulter pour la fièvre typhoïde?
Oui, la fièvre typhoïde fait partie des maladies tropicales. Surtout dans les conditions de notre travail, dans les conditions de nos milieux où la salubrité n'est pas à la portée de tout le monde. Nous consultons beaucoup de cas de fièvre typhoïde, mais il faut noter là que la plupart des cas, ce sont des cas qui viennent avec beaucoup de complications. Les gens qui ont été manipulés par-ci, par-là, et quand il y a des complications, ils nous amènent soit avec des hémorragies digestives, soit avec des perforations intestinales, soit encore avec les malades qui viennent en coma, en encéphalite typhique, comme on l'appelle. Donc nous les recevons régulièrement.
Merci beaucoup. Est-ce que la fièvre typhoïde, comme on l'appelle fièvre, c'est une maladie qu'on peut facilement confondre à une autre et confondre le malade, quoi?
Oui, oui. La fièvre typhoïde, on peut faire le diagnostic différentiel avec beaucoup d'autres maladies. Par exemple, la malaria peut se confondre avec la fièvre typhoïde parce que la malaria a des signes de fièvre. Mais si c'est une infection généralisée, vous pouvez les confondre avec la fièvre typhoïde et l'angiocolite parce que au stade avancé de la fièvre typhoïde, des complications, vous pouvez avoir une hépatosplénomégalie qui peut vous amener à confondre la fièvre typhoïde avec l'angiocolite. Vous avez aussi la tuberculose, la shigellose et les salmonelloses non typiques, la mébiase colo-hépatique sont là des groupes de maladies qui peuvent se confondre avec la fièvre typhoïde.
Merci beaucoup. Est-ce que toutes les personnes qui ont la fièvre typhoïde ont des symptômes qu'on peut facilement distinguer ou bien il y a aussi des malades qui sont porteurs ou bien qui ont la fièvre typhoïde mais ne développent pas les symptômes? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde?
C'est difficile. Je l'ai dit tantôt, quelqu'un peut avoir fait la fièvre typhoïde. Après quelques temps, il a en lui, on appelle ça des porteurs chroniques. Ces anticorps ont développé l'immunité contre la fièvre typhoïde. Mais à l'ennemi, quand on n'a pas encore fait la fièvre ou quand on n'a pas encore été examiné, c'est difficile de dire que celui qui porte la fièvre typhoïde ou pas. Donc, il faut que la maladie ou encore ceux qui fréquentent les services hospitaliers, lors d'un check-up ordinaire et en faisant le bilan général, on peut aller découvrir qu'il a la fièvre typhoïde pendant qu'il n'a pas encore commencé à faire la maladie.
C'est pourquoi il est important de faire un bilan médical de temps en temps.
C'est recommandé de temps en temps, même quand vous n'êtes pas malade, de faire le bilan médical. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout, les maladies liées à la civilisation, hypertension, diabète, tout ça, insuffisance rénale, ce sont des maladies qu'on ne voit pas quand ça commence au début. Donc, quand vous avez des symptômes, la maladie s'est déjà installée. C'est comme ça qu'on recommande à tout le monde, même quand quelqu'un n'est pas malade, régulièrement d'aller faire un check-up tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est parfois pour aller découvrir ce que vous n'avez pas encore des symptômes. Parce que la plupart des temps chez nous, nous allons à l'hôpital seulement quand on commence à faire la fièvre, quand on commence à voir tel symptôme. Et souvent, la maladie a déjà pris de l'ampleur et vous venez la dénicher après.
Merci beaucoup, docteur. Je pense que à cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Mais prochainement, nous promettons aux auditeurs que nous allons revenir avec le docteur Timothée Nkiba pour aborder la deuxième partie de cette émission parce que beaucoup d'auditeurs ont aussi posé les questions concernant le traitement, la prévention de la fièvre typhoïde, mais aussi les complications qu'une fièvre typhoïde mal traitée ou non traitée peut entraîner dans la vie d'une personne.
Merci beaucoup.
D'accord, nous vous remercions, docteur. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci.
C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkiba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion a porté sur la fièvre typhoïde. Voici le moment de suivre Carnet de santé avec Norme.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la variole du singe se propage dans des pays africains avec une nouvelle souche qui inquiète les experts en santé. Jean-Claude Nzé, spécialiste du soutien au programme avec Chorus International en RDC, apporte des éclaircissements sur l'épidémie de M-Pox dans le pays. Et les spécialistes du paludisme appellent à l'action face à la résistance croissante aux médicaments. Une technologie développée par des chercheurs en Californie pourrait-elle aider certains patients à parler à nouveau? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'épidémie de M-Pox, aussi appelée variole du singe, se propage sur le continent africain. L'OMS a mis en garde contre la menace sur la santé mondiale que représente le M-Pox, exprimant son inquiétude concernant une poussée épidémique d'une nouvelle souche plus mortelle du virus en République démocratique du Congo. Selon l'OMS, plus de 4250 cas ont été enregistrés dans 10 pays africains, dont le Burundi, la RDC, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Au moins 456 personnes en sont décédées. La maladie peut être transmise par contact rapproché avec une personne ou des objets infectés. Les symptômes comprennent la fièvre, un mal de tête, des douleurs musculaires ainsi que des éruptions cutanées. En RDC, les enfants restent menacés par l'infection dans les camps de réfugiés. Regardez.
Les séquelles de la variole sont encore visibles sur le visage de Grace Kabio, 7 ans, ici à Goma. Grace, qui fait partie des premiers cas confirmés, se rétablit maintenant, mais le virus se propage de façon alarmante. La mère de Grace, Denise Kayindo, continue de s'interroger sur l'origine de la maladie de sa fille.
Je ne sais pas comment ni par qui mon enfant a été contaminé. J'ai assisté impuissante à l'apparition des symptômes sur son corps.
L'Organisation mondiale de la santé indique que plus de 11 000 cas et 445 décès ont été signalés à RDC cette année, les enfants étant les plus touchés. Le docteur Pierre-Olivier Ngandiolé, conseiller médical de l'organisation caritative MedAir, indique que plus de 130 cas suspects ont été recensés dans cet ancien centre de traitement d'Ebola, principalement chez des enfants.
50% ont même moins de 5 cas. Et jusqu'à 18 ans, c'est 95% des cas. Donc vous notez que les plus de 18 ans, c'est juste 5%. Donc à ce stade, nous retenons quand même que la voie la plus commune ici, c'est les contacts directs. Le contact direct d'une personne malade à une personne non malade.
Anciennement connue sous le nom de variole des singes, la variole M-Pox est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés et qui peut également se transmettre d'une personne à l'autre par contact physique étroit. Les autorités sanitaires sont désormais confrontées à un nouveau défi, une variante qui s'avère plus transmissible, en particulier chez les enfants.
Les enfants peuvent aussi s'infecter les uns les autres parce qu'ils sont en contact étroit, qu'ils jouent ensemble, qu'ils partagent les mêmes lieux de vie. Nous nous attendons donc à voir des enfants, mais nous espérons que ces cas pourront être détectés rapidement et qu'ils recevront les soins cliniques appropriés pour réduire la douleur et la durée de la maladie et éviter les complications et les séquelles à long terme.
Dans le cadre des efforts déployés pour endiguer l'épidémie, les autorités sont confrontées à des ressources limitées et aux besoins urgents d'une aide internationale. Il n'existe pas de vaccin ou de traitement spécifique disponible en dehors des essais cliniques.
Espérons que, surtout dans les camps, il faudra voir comment organiser le suivi des contacts avec les RECO et les leaders communautaires. C'est par ce moyen-là que nous pourrions arriver à rompre la chaîne de transmission.
Les autorités sanitaires africaines ont annoncé une augmentation spectaculaire de 160% du nombre de cas de variole rien que cette année. Le virus s'est propagé à au moins 10 pays africains, le Congo étant le plus touché.
Jean-Claude Nzé est spécialiste du soutien aux programmes internationaux de Chorus à Goma, dans l'est de la RDC. Il nous en dit plus sur l'épidémie de M-Pox dans le pays.
Chaque étude a montré que l'origine du monkeypox, du ferré, par exemple, d'une recherche à une autre, Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les formations que nous avons dans la province, ce n'est pas seulement en 2024 que le monkeypox a été déclaré. C'est depuis des années que nous avons eu des résurgences de cas de monkeypox dans le pays, donc en RDC de façon générale. Au-delà de la province du Nord Kivu, il y a la province de l'Équateur, il y a certaines zones de santé de la province de l'Équateur qui sont touchées, il y a certaines provinces certaines zones de santé de la province de Sud-Ubangi qui sont aussi touchées. Mais jusqu'à maintenant, l'information que nous partageons avec les communautés, c'est que la transmission, comme je le disais, elle est interhumaine. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été partagées selon que l'origine viendrait, comme on l'appelle monkeypox, que l'origine viendrait de la viande animale, mais particulièrement la viande des singes, et que les singes auraient été le vecteur, donc auraient été, la source même de la contamination, et que c'est depuis ce jour-là, donc depuis que le premier homme à avoir été en contact avec ces virus a été fait la transmission d'une personne à une autre. Mais aujourd'hui, par exemple, pour le cas du Nord Kivu, c'est des cas qui ont été, selon les analyses, qui ont été importés. Donc, quand j'ai dit importés, c'est des cas qui viennent d'autres provinces. Et évidemment, de provinces qui sont en proie au conflit ou de conditions de vie ne permettent pas aux uns aux autres, par exemple, de respecter le mesure d'hygiène, de respecter la faune et la flore. Donc, comment est-ce qu'on arrive évidemment à déceler qu'il y a de signes de monkeypox dans la communauté? Donc, les campagnes de sensibilisation aujourd'hui permettent aux communautés, que ce soit dans la langue locale, que ce soit la langue nationale en swahili ou dans les langues que les déplacés facilement peuvent utiliser. Dès lors qu'il y a des images que nous partageons, donc des images qui reflètent évidemment les personnes qui présentent les signes, les symptômes de monkeypox, l'idée, c'est de s'assurer que l'un ou plusieurs symptômes qui sont visibles sur le corps d'un homme, d'une femme, d'un enfant, qu'on n'entende pas avant de confirmer qu'il y a maladie ou pas, mais de s'assurer que le premier lésion cutanée qui sont observées, le premier symptôme qui est telle ou telle autre personne présente sur le corps, que la communauté se précipite déjà pour accompagner le présumé, donc le cas suspect, l'accompagner vers l'institut de prise en charge.
Les spécialistes du paludisme appellent à l'action face à la résistance croissante aux médicaments en Afrique. Selon les experts, les schémas de résistance à l'artémisinine observés en Asie du Sud-Est sont désormais découverts en Afrique, ce qui menace de créer une bombe à retardement des décès dus au paludisme si rien n'est fait. Reportage de Henri Ridjoel depuis Bangkok.
Plus de 1000 enfants meurent chaque jour du paludisme en Afrique et l'on craint que le taux de mortalité n'augmente. Les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine ou ACT constituent la pierre angulaire du traitement du paludisme depuis 20 ans. Mais les signes inquiétants indiquent qu'elles perdent de leur efficacité, explique Lawrence von Seidling, co-auteur du rapport et membre de l'unité de recherche en médecine tropicale de Mahidol Oxford à Bangkok.
Nous recevons de plus en plus de rapports en provenance d'Afrique de l'Est faisant état d'une résistance avérée au traitement de première ligne contre le paludisme.
Des mutations résistantes à l'artémisinine ont été détectées dans plus de 10% des cas de paludisme en Éthiopie, en Érythrée, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Avant l'artémisinine, la chloroquine était le médicament le plus utilisé pour traiter le paludisme. Les auteurs du rapport notent que dans les années 1990 et au début des années 2000, les signes indiquant que le parasite du paludisme développait une résistance à la chloroquine ont été largement ignorés.
Lorsque la résistance à la chloroquine s'est lentement glissée en Afrique, elle a été suivie d'une vague de mortalité infantile. En réalité, un grand nombre d'enfants, probablement des millions, sont morts parce que la chloroquine ne fonctionnait plus aussi bien qu'avant. Et maintenant, nous avons les premiers signes que quelque chose de similaire est en train de se produire avec les artémisinines. C'est bien sûr très inquiétant.
L'article, publié dans la revue Science, exhorte les décideurs politiques et les organismes de financement mondiaux à agir maintenant pour empêcher la résistance à l'artémisinine de s'installer. Il recommande notamment de combiner les médicaments à base d'artémisinine avec d'autres médicaments dans le cadre de ce que l'on appelle les trithérapies à base d'artémisinine, de déployer de nouveaux insecticides et moustiquaires plus efficaces, de mieux former les agents de santé communautaires, de déployer rapidement de nouveaux vaccins contre le paludisme et d'améliorer la surveillance. Selon M. von Seidlin, bon nombre de ces méthodes ont été utilisées pour enrayer la propagation de la résistance à l'artémisinine en Asie du Sud-Est au cours de la dernière décennie. Les scientifiques affirment que ce sentiment d'urgence doit maintenant s'appliquer à la lutte contre la résistance à l'artémisinine en Afrique.
Avez-vous déjà pris des antibiotiques pour traiter la grippe? Si oui, les antibiotiques n'ont aucun effet sur la grippe, selon les experts médicaux, car la grippe est une infection virale. Ils sont plutôt efficaces contre les bactéries. Alors, quelle est la différence entre une infection bactérienne et une infection virale? Voici ce que disent les experts de la clinique Mayo, basée aux États-Unis. Les virus sont des agents pathogènes non vivants nécessitant des cellules hôtes pour se reproduire. Ils sont responsables de maladies comme la grippe, le rhume et le COVID-19. Les symptômes viraux comprennent souvent une fièvre de bas grade, des douleurs corporelles généralisées, de la fatigue et des symptômes respiratoires supérieurs comme un nez qui coule. Les bactéries, en revanche, sont des organismes unicellulaires pouvant survivre dans divers environnements. Certaines bactéries sont bénéfiques, mais d'autres causent des infections comme la pneumonie ou les infections urinaires. Les symptômes d'une infection bactérienne peuvent inclure une fièvre élevée, des douleurs localisées. Les infections bactériennes sont généralement traitées avec des antibiotiques qui sont inefficaces contre les virus. Les médicaments antiviraux empêchent les virus de se répliquer ou de pénétrer dans les cellules. Le traitement vise principalement à soulager les symptômes. Certaines personnes qui ont perdu la capacité de parler peuvent encore bouger leurs cordes vocales. Des chercheurs californiens travaillent à transformer ces mouvements musculaires en paroles audibles. Génia Duleau nous en dit plus depuis Los Angeles.
Des ingénieurs de l'Université de Californie à Los Angeles développent ce dispositif pour capter les signaux électriques produits par la vibration des cordes vocales. Le chercheur Zinki utilise l'intelligence artificielle pour transformer ces signaux en paroles.
Ce signal électrique est envoyé à l'actionneur ou au haut-parleur qui émet le son. Ainsi, l'ensemble du processus de la détection au traitement puis à l'actionnement permet d'atteindre l'objectif final, à savoir vous aider à parler sans utiliser vos cordes vocales.
La membrane magnétomécanique qui convertit les vibrations des muscles des cordes vocales en signaux électriques est souple et extensible de sorte qu'elle peut être portée confortablement. Les chercheurs ont mélangé des nanoparticules magnétiques à des polymères souples et l'ont façonné en utilisant la technologie japonaise traditionnelle de découpage du papier.
Nous fabriquons la couche avec un motif kirigami, ce qui la rend encore plus douce.
Des chercheurs entraînent l'intelligence artificielle à reconnaître les vibrations des muscles des cordes vocales de différentes personnes.
Votre vibration musculaire peut être différente. Nous devons entraîner l'appareil avant qu'il ne soit prêt à l'emploi. Ensuite, nous analyserons d'abord ces signaux électriques afin de constituer une base de données de vocabulaire personnalisée.
Cet appareil est conçu pour aider les personnes souffrant de divers troubles et pathologies de la parole. Etienne explique qu'il prévoit de tester l'appareil lors de ses propres conférences qui peuvent durer jusqu'à 3 heures et parfois mettre sa voix à rude épreuve.
Fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la fièvre typhoïde, notamment des symptômes, des modes de transmission et aussi de ce qu'il faut faire lorsque survient cette fièvre. Nous étions en compagnie du docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de John Allison qui étaient à la console.
Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com.